Bon, bonjour. Bon, j'avais demandé, bon, j'avais proposé de faire cette présentation, surtout parce que je trouve qu'il y a un contexte qui est bien différent de ce qu'on fait chez nous au Venezuela et ce que vous faites vous ici. Et donc, je voulais surtout d'avoir quelques retours de la part de votre part. Et bon, vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Et donc, j'ai préparé quelque chose de très peu formel. Et je m'excuse d'avance parce que sûrement il y aura des erreurs dans la présentation et aussi peut-être une utilisation du langage qui n'est pas forcément la même que vous faites. Donc, je vais essayer de bien vous expliquer. Donc, c'est surtout une présentation du contexte et qui va être illustrée par un cas particulier dans mon université. Donc, je vous présente, il faut que je parle comme ça parce que je n'ai pas d'image dans mon écran. Donc, au Venezuela, la formation d'enseignants se fait différemment que dans d'autres pays. Bon, je dirais pas au Venezuela, mais dans l'Amérique du Sud. Et chez nous, les enseignants prennent leur chemin universitaire depuis le début, depuis qu'ils sortent du baccalauréat, qui est en fait l'éducation secondaire qui a une durée de 5 années. Et ils rentrent directement à l'université et ils suivent un parcours différent du parcours de les spécialistes, c'est-à-dire que une personne un chimiste va pas suivre le même chemin universitaire que un enseignant en chimie. Donc les enseignants là-bas, ils font leur chemin universitaire qui a une durée de 5 ans. Et pendant ce chemin-là, ils vont apprendre la discipline et la didactique et la pédagogie de la discipline en même temps. Et, donc ça nous pose un problème, un souci à la fin, que c'est que les enseignants n'ont pas forcément la même formation disciplinaire que les spécialistes. Et bon, mon cas particulier, c'est l'Universidad de los Andes qui a une faculté de sciences humaines et sciences de l'éducation dans laquelle je travaille. Et le nombre du diplôme, c'est licence en éducation mention sciences physico-naturelles. Et il faut déjà expliquer que ça comprend physique, chimie et biologie. Les maths sont séparés. Donc, quand on parle au Venezuela, quand on parle de sciences naturelles, en Amérique en général, on fait référence à la biologie, la chimie et la physique. Donc, ça, c'est une différence ici. Géologie, non, parce que ça devient science de la Terre. Ça, c'est à part. Mais parfois, on l'inclut aussi. Après, il y a eu une série de réformes éducatives récemment, c'est-à-dire depuis 5 ans, qui a bouleversé le monde éducatif et en général qui a bouleversé le pays, parce qu'on avait les programmes officieux étaient basés sur des contenus et il y avait une conception de l'apprentissage comme quelque chose de linéaire et d'accumulatif, et toujours basé sur les contenus. Et après, les programmes étaient bien, bien rigides. Il fallait les suivre dans l'ordre spécifié. Et c'était pareil partout le pays. Donc, il y a à peu près 5 ans, on a enlevé ces programmes. On a essayé d'introduire de nouveaux programmes qui n'avaient pas une séquence définie de contenu, mais qui signalaient que les disciplines devraient s'intégrer. C'est qu'on a introduit le terme d'intégration de disciplines. Et personne ne savait qu'est-ce qu'on voulait avec ça. Donc ça, d'abord pour les disciplines dont on travaille, ça signifiait le besoin d'intégrer les sciences naturelles et la mathématique. Donc d'abord, on s'est posé beaucoup de questions, et autant au niveau des enseignants eux-mêmes, comme au niveau de la formation d'enseignants. Et par exemple, quelles disciplines il fallait intégrer, si c'était seulement les disciplines d'un domaine particulier, ou si était aussi d'intégrer les disciplines d'un domaine avec les disciplines d'un autre domaine. Et comment le faire? Les enseignants se demandaient s'il fallait que l'enseignant qui avait toujours enseigné que la physique devait commencer à enseigner aussi de la chimie et de la biologie, et en fait de la mathématique aussi, ou si ça était plutôt que deux enseignants, l'un de chimie et l'un de biologie, étaient en même temps dans la salle, des choses comme ça. On n'avait aucune idée de comment le faire. On ne l'a pas encore. Et après, comment le faire? Quels outils employer? Parce que c'est clair que sans avoir un programme qui dit quel contenu il faut enseigner, dans quel ordre, tout ça, on devenait à peu près aveugle, sans savoir comment faire. Et quelles compétences il fallait développer dans les enseignants pour qu'ils puissent appliquer, mise en œuvre cette nouvelle réforme. Et qu'est-ce qu'intégration? Enfin, on ne savait même pas ce qu'il y avait en derrière en termes de l'épistémologie et de la pédagogie. Donc, on continue toujours à se poser cette question. Et ça n'a pas de réponse. Et la réforme, bien qu'elle a été implémentée de quelque façon, ça continue toujours à être quelque chose de très brouillé. Donc, chez nous, à mon université, on a essayé avec les élèves, avec beaucoup d'échanges avec des enseignants des différentes institutions, de définir, d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'intégration et comment le faire au niveau de la classe. Donc, on arrive à voir que c'est quelque chose de mettre en relation les différentes disciplines, le contenu des différentes disciplines. Mais après aussi, il y a un petit mot qu'on a pris, que c'est ça d'important, qui est bien défini dans les BO, et que c'est de mettre en relation les contenus des différentes disciplines avec le contexte, c'est-à-dire avec l'environnement immédiat de l'élève, en prenant compte de ses connaissances préalables, en prenant compte des possibles ressources, des possibles éléments de l'environnement géographique, social, institutionnel, qui vont intervenir dans la formation, dans l'enseignement. Donc, il y a deux outils qui sont proposés dans les BO et qui sont les projets. On appelle surtout de grandes genre de projet, les projets intégral communautaire et le projet de la classe, le projet d'apprentissage de la classe. Donc, on nous dit de choisir des sujets problématiques qui sortent de l'interaction entre l'établissement, les élèves, les parents, la communauté en général, et qui sont d'intérêt pour tous ces personnages-là. Et de faire, de chercher à trouver une solution à la problématique choisie. Et après, dans ces cadres, essayer de trouver quel contenu de chaque discipline, de chaque domaine, vont aider à résoudre ces problèmes-là. Et ça, on l'a décomposé dans deux éléments pour essayer de le mettre en place. Que c'est l'interdisciplinarité, c'est ça la collaboration de différentes disciplines pour résoudre un problème, pour l'étudier. Et ce mot-là, que je ne sais pas si vous l'avez, que c'est la contextualisation. Que c'est en fait c'est cette idée de mettre en relation tout ce qui a de voir avec le contexte et des différents contenus, des différentes disciplines. Donc, pour le projet, comme on le conçoit, c'est une stratégie didactique qui est qui a une approche qualitative et constructiviste en opposition à l'approche behavioriste qui avait dominé les BO jusqu'au moment, basée sur le contenu, qui a une sélection d'un sujet, d'un problème, d'un thème qui va être étudié, un phénomène, qui doit être planifié. Dans cette planification-là, il y aura toujours un composant de recherche et qui va être mis en place dans une période éducative plutôt longue. Donc, on choisit les projets à l'école ou au collège pendant toute la durée de l'année ou de projets pour l'année scolaire. Et donc, bon, ça c'est censé avoir beaucoup de points positifs pour l'apprentissage. Donc, et ça, on l'avait déjà au niveau des écoles, déjà depuis 20 ans. Et c'est que depuis 5 années qu'on commence à l'implémenter au niveau du collège, du collège-lycée. Et donc, on se pose la question si on peut le faire à l'université. Bon, ça, c'est un peu une idée comment le faire, de plusieurs étapes. Ça sera d'ici la première, d'ici la dernière. Et ce qui est important, c'est qu'il y a toujours une collaboration des élèves et des enseignants. Ce n'est pas l'enseignant qui planifie toute la session, qui planifie toutes les stratégies. Ce sont aussi les élèves qui vont contribuer à choisir le sujet, à choisir comment le mettre en œuvre et comment l'évaluer. Donc, on se demande si à l'université on peut faire ça. Pourquoi on se pose cette question-là? Parce que si l'on est en formation d'enseignant, pour qu'ils puissent après appliquer cette stratégie dans leur pratique, est important de leur faire vivre l'expérience pour qu'ils puissent l'apprendre, s'en approprier et après l'appliquer. Donc, bon, on a décidé d'essayer de le faire en classe de physique à l'université avec ces étudiants qui sont en formation. Et donc, ça, il avait le besoin de faire tourner le module autour d'un sujet, d'un projet qui allait permettre de développer, de travailler, d'aborder tout le sujet, tout le contenu du module. Donc, dans mon cas particulier, c'est un cours classique de physique, de mécanique classique, qui a tout ce contenu et d'autres que j'oublie. Donc, il fallait offrir aux étudiants des différents choix de différents types de sujets qui pouvait servir à développer ce contenu-là. Donc, d'abord, on fait toujours avec nos étudiants un test diagnostique chercher à connaître ses intentions d'apprentissage. Et là, on leur a proposé tout ce... Je ne sais pas si vous lisez. Mais il y avait plusieurs de choix pour utiliser plus tard comme projet les moyens de transport, les arts et le spectacle, les sports, les jeux sportifs et les machines à l'énergie. Ce sont des sujets que j'ai plutôt choisis qui je pensais auraient permettre de travailler les contenus du module, et ils ont choisi les moyens de transport. Étant ça un sujet très ample, on a limité à étudier un cas particulier qui nous occupait de façon très directe au moment où j'ai essayé cette technique, que c'était la construction d'un moyen de transport tout nouveau dans notre ville et qui s'appelle un trolleybus. C'est quelque chose de similaire à un tram, mais c'est pas un tram, c'est quelque chose de différent. Donc, au moment où on a fait ça, la ville était toute détruite, en fait, parce qu'on construisait les chemins pour le trolleybus. Et donc, tout le monde était très, très avide de savoir comment ça marchait, comment ça ira devenir dans la ville quand ça serait mis en œuvre et tout ça. Donc, ça leur a attiré beaucoup. Et bon, donc, il y a une petite photo du troll. Et bon. Donc, à la fin, on a décidé de limiter le projet sur ces sujets-là. Et bon, on a vu qu'apparemment, il y avait une possibilité de, bien sûr, de travailler, d'aborder les contenus du module de la classe. À partir du projet, à partir du besoin exprimé par les étudiants de comprendre, de connaître, de comprendre comment ça marchait le trolleybus. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup d'informations là-dessus qui pouvaient être exploitées, explorées, à partir des contenus de la physique, de la mécanique classique. Donc bon, on a défini quelques objectifs, on a fait explicite les consignes pour le développement du projet. Les étudiants se sont organisés eux-mêmes en groupe. Ils ont réalisé son planning parce que c'était un projet à faire dans un semestre. Donc il avait à peu près 4-5 mois pour le faire. Et de la part du formateur, de mon part, il fallait réécrire tous les matériaux et, du module, c'est-à-dire les tests, les examens, les exercices et les matériaux de support pour qu'ils soient accord au projet. Donc, c'est-à-dire quelque chose de je vous donne un exemple. Par exemple, on avait un exercice tout classique de physique. Si il y a un point qui bouge d'ici là, blablabla. Donc, je mettais si le trolleybus bouge d'ici à là, c'était plutôt ça. Et donc, je le plaçais dans une des avenues de la ville et bon, des trucs comme ça. Donc, ça rendait immédiatement l'exercice dans un contexte, ça le rendait quelque chose de concret, de concrète, et ça allait bien sûr une différence par rapport les étudiants. Et bon, on a dû aussi planifier des séances particulières pour discuter sur l'avancement du projet, parce que comme il y avait des différents groupes, différentes équipes, et chacune des équipes avait un planning particulier. Et ils voulaient après faire des échanges pour savoir quelles informations avaient relevé chaque équipe et comment ils savaient les classifier et tout ça. Donc le but du projet était de mieux comprendre le fonctionnement du trolleybus. Et bon, après, il y avait une évaluation qui a été aussi discutée avec les étudiants, qui a été proposée par eux-mêmes et qui a été mise en accord avec l'évaluation traditionnelle du module. Et bon, enfin, qu'est-ce qu'on a trouvé pour ce cas-là? La motivation des étudiants vers le module a augmenté beaucoup, beaucoup. Parce qu'auparavant, ils avaient... Je ne sais pas si ça se passe comme ça chez vous, mais chez nous, dans toute l'Amérique du Sud, il y a toujours un sentiment négatif de la part des étudiants, des élèves en général, par rapport à l'apprentissage des sciences. Il y a toujours ça dans tous les niveaux, des sciences en général. Donc, ça s'est passé même pour ces étudiants qui ont choisi d'être enseignantes en sciences. Ils avaient toujours peur de la physique. Donc, ça a changé beaucoup avec l'implémentation du projet, comme ça. Et après, il y a eu une amélioration importante des connaissances conceptuelles. C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire, qu'ils pouvaient appliquer les contenus à la situation étudiée. Par exemple, de dire pourquoi ils pensaient que les sièges du trolleybus avaient été construits avec un matériel tel. Pourquoi était le matériel de construction de la voiture, pour qui, s'il y avait une collision, par exemple, ça ira absorber l'énergie de la collision et ça serait plus sûr pour les passagers et des trucs comme ça. Donc ça a été très sympa de voir. Et après, ils sont arrivés à prendre la méthode en l'utilisant eux-mêmes. Et ça, bien sûr, ça sera utile pour eux après dans leur pratique. Et il y a une valorisation très forte de l'importance de la participation de l'élève, dans leur cas de l'étudiant, dans son processus d'apprentissage, c'est-à-dire d'avoir la parole, d'avoir le droit de participer, de dire comment il veut être évalué. Et c'est une chose très importante parce que c'est comme ça qu'on nous dit de faire dans le BO. Mais après, bon, il n'y a pas eu d'effet dans ces savoirs procédimentaux, c'est-à-dire dans la résolution d'exercices et dans des activités qui ont besoin de mettre en ordre d'habilités mathématiques. Ça n'a pas eu aucun effet. Donc, ça veut dire qu'il continue à être mauvais dans ce côté-là. Il faut le dire. Et après, bon, il n'y a pas non plus de résultats positifs dans les qualifications. Ça, je le mets en rouge parce que pour eux, ça a été très important. Ils ont à la fin ressenti qu'ils avaient mis beaucoup d'efforts dans le projet et comme ça avait pas ça se reflétait pas dans leurs notes. À la fin ils ont été pas si contents. Ouais. Et de mon côté, oui, aussi en augmentation de la motivation parce que c'est je le dis comme ça, c'est moche pour un prof de voir que ses élèves ont peur de contenu, de module. Ça, c'est pas du tout joli qu'ils viennent toujours avec cette résistance à prendre sans être motivés. Donc, ça changeait beaucoup et ça me faisait plaire à moi. Après, de voir qu'il y avait une possibilité réelle de mettre en place de l'interdisciplinarité et de la contextualisation des contenus de mon module, c'était sympa aussi. Parce que, on voit, c'est la physique, c'est tout s'est dit déjà. On sait qu'est-ce qu'on va travailler en cours, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ça, c'était quelque chose de nouveau pour moi aussi. Mais après, il y avait quelques contenus qui restaient en dehors du projet, qui restaient beaucoup plus difficiles d'aborder dans ce contexte-là. Et il a fallu parfois de laisser le projet à côté pour pouvoir aborder ces contenus et ça mettait quelque chose ça faisait une coupure parce que ça restait le contenu qu'on disait bon ça sert à quoi enfin. Et ça a demandé beaucoup beaucoup d'efforts de tout changer, de tout réfléchir. Et ça, c'est qu'un projet qu'on a fait pendant un semestre. Pour le refaire le semestre suivant, ça serait quelque chose de différent. Absolument, parce que dans le cas du trolleybus, ça a été déjà implémenté, ça a été autre chose. Et en plus, on ne savait pas quels autres étudiants on aurait à voir le semestre suivant. Et peut-être qu'ils auront choisi d'autres choses. Donc, ça met beaucoup, beaucoup d'efforts de la part du formateur. Et ça s'est traduit immédiatement que ça met beaucoup d'efforts de la part des enseignants qui vont appliquer ces techniques au niveau du collège. Et ça, c'est un des gros soucis qui a posé la nouvelle réforme, parce qu'elle dit qu'il faut faire des projets et les enseignants refusent à le faire parce que ça met beaucoup, beaucoup d'efforts. Et enfin, je mets un dernier point qui ni est rouge ni est vert, parce que ça dépend. Ça invite à travailler en équipe avec d'autres formateurs, d'autres enseignants. Au niveau de l'université, ça, je dirais, c'est plus possible de faire un peu plus qu'au niveau de collège, parce qu'il y a les profs collège, les enseignants ont parfois ils travaillent dans plusieurs établissements. Et leur emploi de temps est trop restreint. Et ils vont suivre le chemin du potentiel minimum. C'est ça. Donc bon, voilà, c'est ça. C'est une expérience, c'est plutôt qu'on essaie, qu'on cherche à faire pour essayer de mieux former des enseignants suivant les réformes, suivant ce qu'ils vont faire quand ils seront dans leur pratique. Merci.